c'est pas du vent. François Bernard.
Deuxième partie de C'est pas du vent, la chronique de Dominique Dezonnet dans une vingtaine de minutes. Mais avant cela, notre reportage quotidien. On y parle de la transhumance, source de conflits depuis longtemps, car les éleveurs passent et les cultivateurs restent. Pourtant, le passage des troupeaux est compatible avec l'agriculture, puisque les agriculteurs confient leurs bêtes aux éleveurs et qu'en retour, les bouses fertilisent les champs. Mais la population est de plus en plus nombreuse et cela rend les terres de passage et de pâture de plus en plus rares. Dans ces conditions, les troupeaux traversent maintenant le cœur des réserves de biosphère, contrevenant ainsi à toute tentative de préservation de l'environnement sauvage et de biodiversité. Voilà quelques thèmes qui sont évoqués dans ce reportage enregistré à la mare aux hippopotames au Burkina Faso et dans le parc du Bénin, un reportage réalisé par Agnès Rougier, mise en onde par Alain Bleu.
Aujourd'hui, nous partons au Burkina Faso et au Bénin à la rencontre des éleveurs de bétail. Dans les réserves de biosphère, l'utilisation de l'espace est contrainte par un découpage en zones distinctes. Il y a le cœur de la réserve, interdit à toute exploitation, et les zones de transition ou encore zones d'occupation contrôlées, où se trouvent les villages et les terres cultivables. Mais la terre est victime de sécheresse, victime des aléas climatiques, alors que la demande en nourriture croît, en même temps que la population et donc les terres cultivées. Dans ce contexte, quelle place reste-t-il alors aux éleveurs transhumants, ces éleveurs qui traversent la région du nord au sud tous les ans en suivant la pluie? Dans cette émission, nous sommes à Bala, au Burkina Faso, au bord de la réserve de la mare aux hippopotames et à Banikoara, dans le parc W du Bénin.
Oui, je peux. Excusez-moi. Vous, je veux juste pas vous déranger. Excusez-moi.
Ruga, le chef peul de Banikoara.
Ruga, le chef peul de Banikoara. On est en bordure du parc du W, donc c'est une réserve de biosphère dont une partie est accessible et le reste non. Vous ici, vous vivez en élevant des troupeaux plutôt? Quel est votre mode de vie?
Ouais, les troupeaux que nous avons, les bêtes que nous avons, sont depuis nos ancêtres, ce que nous avons hérité. Eux, le peul ne vit que de ces bêtes. Ils ne chassent pas. C'est tout dernièrement aussi, ils ont commencé par cultiver. Comme maintenant, c'est le manque d'eau et de nourriture. Ouais. Ils ont commencé par maintenant s'intéresser à l'agriculture un peu. Parce que ce n'est plus comme avant, comme il pleuvait avant. Maintenant, ce n'est plus ça. Ça devient rare.
Ça a beaucoup changé?
Ça a changé sérieusement maintenant. Parce que si aujourd'hui, je crois, si il n'y avait pas la réserve de faune biosphère, là, ça veut dire que ça serait plus grave. Aucune bête même ne trouverait, même comme il pleut maintenant. C'est en bordure de ça, les jeunes tampons là.
Oui.
C'est de ça que nous vivons maintenant. C'est là où vivent les bêtes, trouvent à manger. Mais si aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette réserve de biosphère là, on aurait tout sarclé. Aujourd'hui, on serait en plein sur la Sahel désert.
Vous pensez que si la réserve n'existait pas, il pleuvrait moins ici aussi?
S'il n'y avait pas de réserve, il allait pleuvoir moins. J'ai dit beaucoup moins même.
C'est-à-dire que là, avec cette bande effectivement de 3 km, je crois, qui vous a été concédée, ça a permis de nouveau à vos troupeaux d'aller paître. Qu'est-ce que ça a changé concrètement pour la vie de tous les jours et les animaux?
Juste ici, d'abord, nous avons assez d'animaux. Les animaux continuent à se multiplier grâce à ces 3 km que nous avons tout autour du parc.
Moi, j'imagine quand même que vous êtes avec des animaux qui ont du mal à trouver à manger.
Oui.
À côté, vraiment pas loin, il y a une réserve de biosphère, donc avec beaucoup à manger pour les animaux. Est-ce que c'est pas tentant d'emmener les animaux paître dans la réserve?
On ne peut plus parce que nous avons compris. Vraiment, c'est très nécessaire. Sans cette bande-là, on allait souffrir beaucoup. À la longue, il n'y aura plus rien. Et non plus les animaux sauvages aussi, qui se trouvent dans la réserve, n'allaient pas se multiplier. Aujourd'hui, on a empêché même les braconniers, si bien qu'aujourd'hui, même ces petites-là, qui est derrière vous maintenant, ils s'en vont, les bêtes ne bougent plus. On voit que des troupeaux sur des troupeaux. Donc, ça les intéresse aussi.
Et nous quittons maintenant le parc W du Bénin pour partir à l'ouest du Burkina Faso, à la réserve de biosphère de la mare aux hippopotames, dans le village de Bala précisément. Nous sommes assis à l'ombre avec Amadé Ouedraogo, l'ancien directeur de la réserve, Zosun Milogo, qui est le président de l'association villageoise de gestion des ressources en faune, la GRF, qui est également notre traducteur, et deux éleveurs transhumants, Sidi Bé Diallo et Diallo Abdourahmane.
Il dit que c'est héréditaire, ils sont éleveurs. Ils ont trouvé leurs parents éleveurs, eux-mêmes ils sont éleveurs. Bon, lui, son troupeau va de 100 en montant. 100 et plus, il a 100 et plus têtes.
Bovin?
Oui. Bovins et caprins, tout est compliqué.
Ah, tout, tout.
Ouais, y a des caprins, ça c'est à part, mais les bovins sont de 100 en montant.
Diallo Abdourahmane, quel est votre troupeau, à quoi ressemble-t-il?
Son troupeau de bœufs est actuel. Les bovins sont à 40-45 actuellement. Ses parents avaient vraiment beaucoup d'animaux, de bœufs, de moutons, et c'était vraiment facile. L'élevage ne portait pas, n'avait pas un coût. Mais maintenant, bon, c'est devenu autre chose.
Pourquoi c'est devenu autre chose?
Les effectifs qu'ils ont réellement, s'ils doivent les laisser ici, ne peuvent pas manger à leur faim en hivernage, ne parlons pas de la saison sèche. Donc c'est le problème d'aliments et d'eau qui fait qu'ils trouvent que le coût dépasse l'avoir.
Et ça a changé à cause de quoi? Comment ça se fait qu'ils n'ont plus assez à manger? Qu'est-ce qui se passe?
L'une des causes de ces difficultés est la mauvaise pluviométrie. Secondo, il y a la croissance démographique. Il y a maintenant plus de gens que de terres. Les gens sont occupés presque toutes les parties et les bœufs n'ont plus où aller. Voilà, donc ça fait que maintenant l'élevage là est devenu un problème.
Alors venir ici pour faire manger les animaux, quand on regarde le paysage, on a l'impression que là où c'est le meilleur ou le plus tentant, en tout cas, c'est dans la réserve. Mais je suppose que maintenant, c'est devenu... interdit. Est-ce qu'avant vous avez eu l'occasion d'aller d'emmener vos animaux dans la réserve ou est-ce qu'avant vous le faisiez et aujourd'hui?
Auparavant, on pouvait parquer dans une réserve sans courir de risque. Mais actuellement, avec les changements des milieux, des textes, c'est devenu un problème. Si vous amusez à rentrer dans une réserve avec vos bœufs, vous pouvez avoir à payer une amende de 500 à 1 million. Et donc, ce qui fait que généralement, ils évitent le maximum de laisser les bœufs parquer dans la réserve.
Mais des corridors, des couloirs de transhumance, ça n'a pas été fait ici dans la région autour de la réserve de biosphère?
Oui, il y a un foco à ma bord. a beke dota gasi ni moko a bora fana a beke dota gasi
donc les pistes à bétail comme ailleurs ont été faites, elles ont été délimitées, mais réellement ces pistes à bétail n'ont pas été mises en pratique. Il n'y a pas eu d'aménagement au niveau de ces pistes à bétail, il n'y a pas eu quelque chose de concret. Et actuellement, même par défaut de terre, les gens ont commencé à défricher ces pistes-là et commencé à les exploiter. Donc, je ne peux pas vraiment avouer qu'il y a eu un aménagement dans ce sens-là. Voilà, c'est un effort qui a été fait, mais qui n'a pas été suivi.
Dans ce sens-là, le PNGT a commandité une étude dans les années 90-95.
Le PNGT?
C'est le programme national de gestion des terroirs. Dans sa première phase, ils ont commandité une étude aux alentours de la réserve de biosphère, où l'étude a effectivement identifié des zones de pâturage, avec même des points d'eau. Mais comme ils l'ont dit là, ça n'a jamais été mis en application. Ça, c'est fut vraiment un grand problème. Il y a des moments, il y a des parties où ça a été borné, mais ça n'a jamais été respecté. Résultat, on constate que c'est toujours le désordre, quoi, si on peut s'exprimer comme ça.
Vous faites partie, vous, des AGIREF, Sidi Bé Diallo?
Antara.
Ils disent qu'ils ne sont pas.
Bon, qui est qui en a aussi mon coup ma foi en hier. La fois qu'on a bien passé au tuyé, flaqué quel Amadou.
Ils n'ont pas été approchés. Il y avait un délégué d'ici qui est installé à Bala ici, qui répondait et qui participait à toutes les activités des équipes forestières. Mais ce dernier ne faisait pas de compte rendu et donc et qui partent, qui reviennent, ils n'ont pas été intégrés, ils n'ont pas été approchés.
Quelles sont vos relations avec les agriculteurs? Est-ce que vous arrivez à vous entendre pour faire pâturer vos animaux dans leurs champs régulièrement? Vous arrivez, si vous êtes resté là, c'est que vous avez des relations avec eux, j'imagine.
Et ne peut pas dire que la cohabitation est parfaite parce que l'animal cherche à manger. Vous pouvez prendre tout votre sérieux et celui devant qui vous avez beaucoup honte, vos bœufs peuvent aller poser des dégâts là-bas et vraiment vous allez vraiment avoir l'embarras de vous défendre. Donc ça fait que, entre temps, bon, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème parce que c'est dire, il y a des problèmes, ils essaient de les résoudre et puis ils essaient de vivre comme ça.
Voilà. Ouais, ouais. Et pourtant, j'imagine que des bœufs qui pâturent dans un champ, ça donne de l'engrais, non? Il y a pas, c'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est une version idéale de la chose.
Donc, vous savez que quand vous installez dans le champ de quelqu'un, c'est des intérêts individuels. Ça ne peut pas être collectif. Vous allez vous installer dans le champ d'un seul individu. Et maintenant, le jour, vous vous baladez dans les autres champs pour faire pâturer vos animaux. Le profit, c'est-à-dire, revient à celui qui vous a prêté son champ pour que vous vous installez. Les autres, maintenant, qui ne trouvent pas de profit, vont se lever contre vous. La moindre erreur est fatale. Soit on attaque les animaux, ou bien vous, on vous condamne, on vous amène en justice, on vous condamne, vous payez. Et si ça se limite là, ça va encore. Ils peuvent avoir à vous porter la main.
C'est-à-dire qu'au niveau des tiroirs, il y a ce qu'on appelle une zonification qui reconnaît les terres agricoles, voilà, les terres pastorales, et bien sûr les autres usages. Bon, c'est les terres incultes pour la troisième catégorie là. Mais ce n'est pas respecté. Et quand vous enclosez les éleveurs, ce n'est pas respecté simplement parce que les agriculteurs débordent les terres agricoles. Donc ils font la pression sur les terres pastorales disponibles qu'ils exploitent à des fins agricoles. Alors les agriculteurs vous diront aussi que, en fait, c'est les éleveurs qui déversent le trop-plein des animaux sur leur champ sans disposition au préalable. Donc c'est vraiment des choses assez difficiles. Hein. Mais nous pensons que avec le processus de décentralisation qui se met en place là, bon, c'est des problèmes qui seront jugulés par le dialogue entre les communautés elles-mêmes, quoi. Dans le temps, c'est l'État qui servait d'arbitre, hein, et que l'État maintenant, bon, de plus en plus, on voit que les conseils municipaux s'investissent, voilà, les communes s'investissent, ça va être mieux, quoi, on espère, hein, on espère.
Ouais. Et donc ça ne s'est pas amélioré dans les dernières années avec la création de la réserve de biosphère, Sidi Bé Diallo ?
On y va toujours maintenant. Il y a le hydrophone qu'on y est. Bon, big up à la bière.
Lui, vraiment, ce qui ne le plaît pas, ce qui l'angoisse, c'est le fait que un bœuf meurt de faim à côté d'une réserve où il y a suffisamment d'herbes, abondamment de fruits, plein d'eau et qu'on ne peut pas toucher. C'est ça qui le dérange. Quand lui pense à ça, ça le dérange. Qu'est-ce qui peut être fait pour que cette herbe-là soit utilisée? J'avais peut-être envie de lui reposer la question, de savoir si on ne leur a pas dit que c'est autorisé de rentrer faucher l'herbe et de donner à ces animaux. C'est autorisé, on l'a bien dit aux éleveurs, on l'a dit aux communautés, ça a été publié comme on veut. Si les gens rentrent faucher l'herbe, c'est séco et tout ça, là, ça vient de la réserve, il n'y a pas un endroit où vous pouvez trouver du séco comme ça. Mm-hmm. Ça vient de la réserve. On n'a jamais arrêté quelqu'un, je n'ai jamais entendu qu'un forestier a enfermé quelqu'un parce qu'il est rentré faucher de l'herbe. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un a rentré ramasser des fruits là-bas pour donner à ce bœuf, le forestier l'a verbalisé. Mais je sais que les bœufs, proprement dit, ne peuvent pas rentrer dans la réserve pour tourner. Si chaque village doit faire rentrer les bœufs, la réserve, là, sur chaque 10 mètres carrés, vous allez voir un bœuf. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse tolérer cela. Mais s'ils veulent la faciliter, ils ne veulent pas faucher de l'herbe, ils ne veulent pas faire un effort, mais ça, ce n'est plus la faute à quelqu'un. Sinon, c'est autorisé, c'est bien dit, c'est clair, tout le monde est au courant ici.
Et moi, je pense que c'est le système d'élevage même qu'il faut le penser. C'est tout le système même qu'il faut le penser. Et ils ont été formés, si je ne m'abuse là, en technique de fauche.
Oui.
Et avec l'outil là.
Oui.
Voilà, ça veut dire que si ils sont à la bouteilleuse là, s'ils sont vraiment motivés, il n'y a pas de raison qu'ils aient des problèmes particuliers pour ça.
Amadeo Draogo, qui est donc l'ancien conservateur de la réserve, nous dit que tout le monde a le droit d'aller faucher l'herbe avant qu'on mette le feu. Et je crois que vous avez été formé aussi pour ça. Ça y est beau.
Il refuse tout cet aspect de fauche et de haute parce que ce n'est pas utile. En combien de jours vous allez pouvoir avoir la ration de 100 bœufs en fauchant de l'herbe? Lui, il trouve que ce n'est pas la peine. La meilleure solution, c'est de laisser les bœufs rentrer et brouter eux-mêmes et ressortir. Voilà.
Et ici, à Banikoara, Rouga, il n'y a pas de transhumance. Les animaux restent ici ou alors ils d'ici, bougent aussi, il y a une transhumance.
Ainsi, d'ici peu de temps, vers le mois fin décembre, on est obligé de se placer parce qu'il n'y aura plus de choses. Il y a des feux de brousse, on brûle tout. Oui. C'est ça, si on ne brûlait pas aujourd'hui, et qu'on avait de barrages, c'est surtout, il nous manque de barrages.
Il n'y a pas assez de points d'eau et de retenue d'eau.
C'est ça qui nous oblige à se déplacer, à faire des longues marches de transhumance vers le sud.
Vous préféreriez ne pas avoir à bouger avec les bêtes? Vous préféreriez rester sur place?
Si aujourd'hui on trouvait le barrage et qu'il y avait de quoi paître ou bien de nous aider à faire la culture fourragère, c'est-à-dire...
Pour nourrir les animaux, la culture fourragère, oui.
Si nous étions là, on allait rester et on n'allait plus bouger.
La transhumance, finalement, ce n'est pas aussi culturel qu'on peut le penser.
C'est une nécessité. Avant, c'était culturel. Même maintenant, ça devient une nécessité.
Entre les contraintes du climat, de l'environnement, de l'économie, de la culture, les relations entre les différents usagers de ces ressources naturelles sont compliquées et conflictuelles. Alors discuter, écouter et encore discuter et encore écouter. C'est probablement le seul moyen d'arriver à trouver des solutions qui prennent tout le monde en compte.
Voilà, reportage. reportage d'Agnès Rougier réalisé par Alain Bleu. Prochain rendez-vous avec cette série dans les réserves africaines de biodiversité. Ce sera mardi prochain pour parler d'écotourisme.
C'est pas du vent. @rfi.fr.
Élie Joseph Oued à Abidjan nous écrit « Je souhaiterais avoir plus d'informations sur la ferme école du père Godefroy Nzamouyo à Porto Novo, Bénin. Je suis responsable d'une ONG d'assistance de détenus. Cette ONG veut créer un centre d'accueil, alors peut-être une ferme biologique comme celle de Porto Novo, je me suis dit. En tout cas, on a transmis votre message, Élie Joseph Oued, à notre reporter Amélie Niard qui vous répondra dès son retour de vacances. Dans TerraTech, il est question aujourd'hui de cybercar. Dominique Dezonnet.
Bonjour et bienvenue dans TerraTech. Comment chercher à améliorer la sécurité, l'efficacité et le confort du transport routier avec aujourd'hui de drôles de petites voitures sans pilote, les C-Cabs.
TerraTech Actu.
En bref. Et des nouvelles de la planète avec notre expert Jean-Paul Hébrard. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
L'incubateur multimédia Belle de Mai a lancé Média Verde 2009. C'est un nouvel appel à projet.
Cet appel s'adresse aux entreprises qui travaillent dans le domaine du numérique et qui souhaitent présenter des projets Green IT. Média Verde 2009 portera sur les TIC et leurs usages au service du développement durable. Il accompagnera et financera de nouveaux projets porteurs et innovants qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et durables.
TerraTech, l'entretien.
Pour améliorer la sécurité, l'efficacité et le confort du transport routier, de drôles de petites voitures capables de se déplacer de manière autonome tout en détectant les obstacles placés sur leur route.
Ce sont les C-Cabs, des prototypes de cybercars développés dans le cadre du projet européen City Mobile. Une C-Cab, c'est une petite voiture sans pilote qui se dirige grâce à un laser, une caméra et un GPS et qui communique avec d'autres cybercars par Internet.
Les données sont analysées par un ordinateur qui prend en charge le fonctionnement global des C-Cabs. Michel Parent est le responsable du projet européen City Mobile.
On n'est pas encore à automatiser toutes les routes de France. Hein. En ce moment, il y a déjà quelques routes avec des véhicules totalement automatiques, généralement dans des lieux privés, dans des lieux industriels par exemple. On a des camions qui fonctionnent entre des entrepôts de façon totalement automatique, dans les ports. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est qu'on commence à avoir des véhicules de transport de personnes totalement automatique. Le premier système qui a été mis en place fonctionne toujours d'ailleurs à Rotterdam, fait la navette en fait entre une gare et puis des bâtiments de bureaux, comme un ascenseur horizontal 24 heures sur 24. Alors le projet Cybercar a commencé en début des années 90 avec cette idée que si on voulait désengorger les villes, essayer de trouver des moyens plus performants pour se déplacer en ville, il fallait trouver un équilibre entre les moyens individuels et les moyens collectifs. Les moyens collectifs permettent d'aller vite, assez loin, de manière confortable. Si on veut vraiment offrir une alternative à la voiture, ces moyens lourds ne sont pas suffisants parce qu'on ne fait pas du porte-à-porte et puis ils ne sont pas disponibles 24 heures sur 24. Donc il faut associer des moyens lourds avec des moyens individuels. Mais si on veut vraiment un système efficace avec ces voitures en libre-service, l'idéal, ce serait qu'elles se déplacent toutes seules. Donc l'idée, c'était dès le départ de faire ces véhicules en libre-service automatique, ou au moins certains de leurs déplacements en automatique. Par exemple, pour aller d'une station à une autre, pour faire des rééquilibrages, on pourrait envisager une voie réservée à ces véhicules, comme une voie de bus, qu'on peut d'ailleurs utiliser, pour effectuer ces déplacements en automatique.
Tout ceci fait appel fortement aux nouvelles technologies. Alors, il y a plusieurs contraintes sur les voitures. Qu'elles reconnaissent la route, donc des systèmes embarqués intelligents, c'est bien ça le problème.
Alors, c'est exactement sur cela que nous travaillons à l'INRIA. Alors, les technologies de base, c'est essentiellement le traitement de l'information et la communication. Traitement de l'information, ça veut dire qu'il faut capter des informations à partir du véhicule. Donc on met des caméras, on met des lasers, on met du GPS dans le véhicule. On traite toutes ces informations qui vont permettre ensuite au véhicule de se déplacer. En fait, l'ordinateur va commander l'accélération, le freinage, la direction du véhicule pour aller suivre un chemin qui va être déterminé au moment du départ, éventuellement en évitant des obstacles si nécessaire. Et donc on travaille sur toutes ces techniques de navigation autonome, donc de robotique, et ça commence à fonctionner. Pour le moment, nos cybercars se limitent à 30 km/h parce qu'on veut qu'ils circulent dans des zones piétonnes. Et ce sont pour des petits trajets.
Cybercar, on le voit rouler où ?
À l'heure actuelle, il y a trois systèmes qui sont en cours de mise en place. Un à l'aéroport de Heathrow, un dans la ville écologique de Masdar à côté de Abu Dhabi, le troisième à Rome. Et il y a plusieurs projets qui sont en cours, dont un pour la fin de l'année aussi dans la ville de La Rochelle. À Clermont-Ferrand, au mois de septembre, nous allons avoir des démonstrations de véhicules automatiques lors d'une semaine de la mobilité. Donc je vous invite fortement à venir nous voir à Clermont.
Et vous l'avez compris, TerraTech, c'est du tonnerre. Retrouvez toutes ces infos en ligne sur www.rfi.fr ou encore www.tvagri.info. Et si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez nous écrire à terratech@rfi.fr.
Et pour plus d'infos sur les cybercars, rendez-vous sur le site de l'INRIA, INRIA.fr. Merci Dominique Dezonnet. Demain dans TerraTech, un projet qui devrait permettre aux botanistes du monde entier d'échanger leurs connaissances en ligne. Demain également, on commence à célébrer la journée des peuples autochtones. Ce sera dimanche, on recevra un de leurs plus ardents défenseurs, le réalisateur Patrick Bernard. Merci à Sophie Janin, à Sabine de Rosière, à Yann Bourdelas, à Anaëlle Train qui ont activement collaboré à cette émission. Quant à notre phrase rituelle de fin d'émission, vous me la rappelez, Sophie, s'il vous plaît ?
Même planète, même heure.
Ah oui, c'est ça, même planète, même heure. À demain.